Bonjour à chacun. Aujourd'hui, nous avons vu donc c'était l'ascension. Et en introduction, j'aimerais vous raconter un film. Donc avec Christiane, on a été voir au courant mois d'avril un film. Le titre, c'est Le Fils de l'autre. C'est Lorraine Lévy qui en est le réalisateur. Ce film raconte l'histoire d'un jeune juif qui est appelé à faire son service militaire ou son temps d'armée. Lors de démarches administratives et sanitaires, le personnel s'aperçoit qu'il n'est pas du même groupe sanguin que ses parents. Du coup, des recherches, ça veut dire, en fait, pour les plus jeunes, ça veut dire qu'en fin de compte, ses parents ne sont pas ses parents. Du coup, des recherches sont faites et révèlent que le jour de la naissance de ces jeunes, des bombardements avaient eu lieu à Tel Aviv et que dans la précipitation, deux enfants ont été inversés. Le premier donc juif, le deuxième est palestinien. Ce film soulève des questions intéressantes sur l'identité. Le jeune juif, qui était le meilleur de sa promotion dans les études religieuses, cela faisait de lui un bon juif, un goy, un gentil. Du coup, il n'est plus juif. Il ne pouvait plus rejoindre ses camarades au service militaire. J'aimerais nous interpeller sur deux questions que ce film soulève. Qui sommes-nous? Et qu'est-ce que c'est qui nous définit? Une famille, un peuple? Pour cela, j'aimerais faire une lecture avec vous. Dans le livre des Actes, chapitre 1er, versets 1 à 11. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qu'il s'était choisis. Comme après sa mort, il se présenta à eux vivants et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection, il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du règne de Dieu. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter, mais d'y attendre, de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ? » Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leur vue. Nous sommes le jour de l'ascension. Si on peut mettre la photo, s'il te plaît, John. C'est un tableau, je n'ai plus noté qui était l'auteur. Nous sommes donc à l'ascension. Luc apporte ici les derniers contacts que Jésus a eus avec ses disciples. Et il raconte comment Jésus a été élevé. C'est sur cet arrêt d'image que j'aimerais nous entretenir. Deux mondes, le monde visible et le monde invisible. À l'ascension, nous sommes en présence d'une scène qui met en évidence deux espaces, mais aussi depuis la résurrection de Christ, une nouvelle manière d'être dans son corps humain. Jésus porte sur lui les stigmates des clous, mais aussi la marque sur son côté que la lance du soldat romain a laissée. Il est dans son corps de ressuscité, et le voilà que dans ce corps de ressuscité, il est élevé. Jésus est au ciel avec ses marques de son humanité sur lui. On est, j'ai déjà dit, en présence de deux espaces, le monde, la terre, et le ciel, le visible et l'invisible. Deux espaces créés par Dieu. D'un côté, les apôtres que Jésus avait choisi dans Actes. Matthieu nous dit qu'ils étaient les 11 disciples. Et voilà que Jésus s'élève dans les cieux, traverse ces deux espaces, passe de l'un à l'autre, devant les disciples qui en sont les témoins. On est donc devant cet espace, cette scène qui est importante, puisque Jésus révèle le ciel. Il révèle cet autre espace. Si Jésus n'était pas monté au ciel, on pourrait se demander où il est. Mais les disciples l'attestent. Et du coup, cet espace nous interpelle. Tu peux enlever la photo, s'il te plaît, John. L'Ecclésiaste soulignait déjà, Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Ecclésiaste 5, 2. Le ciel demeure de Dieu. Que nous dit la Bible sur le ciel? D'après un article de Jacques Buchol dans la revue Théologie, le ciel constitue en quelque sorte l'habitation de Dieu. Je tiens les références à votre disposition si vous voulez. Le ciel est son temple, sa résidence. C'est là que Dieu a établi son trône. Et c'est là qu'il exerce son règne. En effet, c'est du ciel que Dieu agit librement et souverainement. Observe les êtres humains, nous observe, envoie son salut, fait connaître son verdict, donne ses ordres, fait le bien, intervient en faveur de son peuple, nous, son peuple, manifeste sa justice, sa bonté, sa fidélité. C'est pourquoi le roi Salomon prie, « Depuis le lieu où tu demeures, depuis le ciel, entends notre prière et veuille nous pardonner. » La terre pour les hommes. Le deuxième espace. L'Écriture souligne, si Dieu est souverain sur toute chose, il a donné la terre au Fils de l'homme. Psaume 115, 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu auquel la terre appartient, l'a confié à l'homme son image, son représentant. Genèse 1, 27. Elle est le jardin qui a été donné à l'homme pour qu'il le cultive et le garde. Là, il a été interpellé à régner en vice-roi sur l'œuvre du Créateur. Nous sommes donc interpellés à régner en vice-roi sur l'œuvre du Créateur qui a tout mis sous nos pieds. Psaume 8, 7, 9. Et lorsque Dieu, dans son action souveraine, intervient sur la terre, il le fait dans le respect de cette médiation humaine. Nous avons vu sur le tableau la terre, le ciel. Et dans la Bible traverse une correspondance entre ciel et terre. Jésus en a déjà dit, mais ici en évidence ces deux espaces. Il le traverse, il passe de l'un à l'autre, la terre, le ciel. Ce n'est pas nouveau dans la Bible. Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le fit à la ressemblance de Dieu. Exode 25, 9, Dieu parle à Moïse dans ce texte. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Hébreux 8, 1 reprend cette idée. Paul, je le cite, nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine. Dans les cieux. Il est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Donc Jésus est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle dressé par le Seigneur et non par un homme. Au verset 5, ceci parle là des sacrificateurs célèbres, un culte qui est l'image des réalités célestes. Ici, Paul confirme presque 1400 ans plus tard qu'il faut comprendre la tente de la rencontre, le tabernacle, comme image du véritable tabernacle dans le ciel, qui est bien plus supérieur. Et que le culte présenté par les sacrificateurs est aussi l'image des réalités célestes. Certains commentateurs vont même jusqu'à comprendre la terre comme l'image du ciel. Nous avons parlé d'une correspondance entre ciel et terre, d'un lien. Et je pense aussi à ces paroles de Jésus dans le mandat de lier dans Matthieu 18. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Mais aussi de la parabole de la brebis perdue, la joie que procure dans le ciel une seule brebis qui est retrouvée. Depuis Jésus-Christ, Dieu a fait un grand pas vers l'homme. En Jésus-Christ, Dieu a fait un grand pas vers l'homme. Pour quelle raison Jésus s'est fait homme? On a vu à la Pâque. Il était nécessaire pour chacun d'entre nous, pour payer la condamnation que nous méritions à cause de notre rejet, de notre statut de créature, le refus de se prendre en tant que créature et dire « Dieu, tu es notre créateur », à cause de cette déclaration d'indépendance à Dieu, de son refus, de notre refus de soumission, d'obéissance, il était nécessaire qu'un être de même nature que nous, homme, obéissant, soumis à toute chose, à Dieu, paye d'une mort que lui n'a pas méritée, parce que juste. Quelle était la prédication de Jésus dans la Bible? On connaît le thème central de la prédication de Jésus dans la Bible. Il est marqué par cette notion de ciel, car Jésus prêchait le royaume des cieux. Les béatitudes dressent le portrait du membre qui appartient à ce royaume des cieux. Et une grande parabole, une grande partie des paraboles de Jésus nous explique ce que c'est ce royaume. C'est ce royaume que nous devrions considérer chacun d'entre nous comme prioritaire dans nos vies. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout cela vous sera donné par surplus, par surcroît. Car souligne Jésus en toutes choses, votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Dans la personne de Jésus, le royaume des cieux s'est approché de nous. Dans la personne de Jésus, le royaume des cieux s'est approché de chacun de nous. Jésus répondra aux pharisiens, mais Matthieu 12, 28, si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le règne de Dieu est donc venu vers vous. On voit bien qu'en Jésus-Christ, quand on lit les évangiles, en Jésus-Christ, il y a une manière de devenir homme ou de vivre l'humanité qui est totalement nouvelle et qui contraste avec tout ce qui a existé. Voyez donc, un maître qui lave les pieds à ses disciples. L'Esprit de Dieu est sur lui. L'Esprit de Dieu. Dans le texte du jour que nous avons lu, Jésus a demandé aux apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Je relis les textes, versets 4 et 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et j'aimerais mettre ce passage en correspondance avec celui qu'on vient de lire là. Mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le règne de Dieu est venu jusqu'à vous, vers vous. Matthieu 12, 28. Dieu commença à répandre son esprit sur toute chair à la Pentecôte, formant ainsi l'Église, constituée de membres de toutes les nations. Par l'eau et l'Esprit Saint, nous sommes nés, chacun de nous, de nouveau, introduits dans la famille de Dieu. L'Esprit habite en chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu. Et l'Esprit l'amène à une relation personnelle avec Dieu. L'Esprit nous enseigne et nous rappelle les paroles de Jésus. Peut-on dire que dans cette correspondance entre ciel et terre, que l'Église qui flash au milieu est cette société nouvelle en marche, le déjà et le pas encore, l'avant-garde du royaume de Christ, notre roi, parce que Christ est notre roi. Nous sommes chacun de nous prédestinés à être semblables à Jésus, son fils, à Dieu son fils, à l'image de Jésus. J'aimerais lire dans Romains 8, 29, 30, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il y a la Pentecôte comme une généralisation de la présence de la divinité sur la terre. Le Saint-Esprit est venu habiter nos cœurs pour justement accomplir ce travail de nous rendre semblables à l'image de son Fils. N'oublions pas que nous sommes un peuple de sacrificateurs, nous sommes, Église de Prévesin, la maison témoin, la petite lumière que l'on pose sur une table d'après la parabole, afin d'être vu, et cela en vue de révéler Christ et de montrer, révéler l'auteur du changement de nos vies. Et j'en reviens à ma question, je ne sais pas si je l'ai dit, oui. En Jésus-Christ, j'en reviens à ma question, qui sommes-nous? Qui sommes-nous dans ce contexte de l'Église? Dans ce contexte où nos cœurs sont habités par l'Esprit? En Jésus-Christ, nous sommes recréés. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. L'Église, la communauté de Prévesin, aussi, nous sommes le témoignage de la réconciliation de Christ, de la réconciliation globale, comme dans le ciel où Jésus est assis à la droite de Dieu, ayant sur lui les cicatrices et les clous. Les cicatrices des clous sur ses mains et la marque que la lance a laissée sur son côté. Les enfants de Dieu, nous, nous sommes habités dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu. J'aimerais ce matin nous amener à reprendre conscience qu'en tant que chrétiens, chrétiennes, nous n'avons plus rien à voir avec la nature même d'Adam après la chute. Notre nature, notre esprit est habité par l'Esprit de Christ. Et nous le ressentons bien dans notre corps, cette dualité qu'il y a dans notre corps, l'opposition qu'il y a entre corps et esprit, corps et chair, entre le plaisir et le désir d'être fidèle à Dieu. Et ce besoin au fond de nous, c'est ce cri au fond de nous d'une autonomie, d'une séparation. Notre engagement relationnel n'est plus la domination, la puissance. Notre engagement relationnel n'est plus la violence, mais la considération de chacun et l'amour du prochain. Qui je suis en Jésus-Christ? Quelle est la personne que je suis devenue? Au même titre que de mon film, Le Fils de l'autre, Christ nous réconciliant avec Dieu, le Père, il y a à se positionner sur une filiation. Oui, je veux être ton fils. Oui, je veux être ta fille. Ce qui n'est pas anodin, puisque ça a des implications pour nous. Il y a toute une famille derrière, un peuple, un récit. Je deviens participant du projet du salut. Exode 3,15, déjà, Dieu demandait de s'inscrire dans ce récit. Tu parleras ainsi aux Israélites, c'est Dieu qui parle à Moïse. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà comment je veux être invoqué de génération en génération. Nous ne sommes pas appelés à vivre chrétiens tout seuls, mais à intégrer la communauté. Et du coup, nous intégrons la grande histoire. La Bible, c'est notre histoire. Nous y sommes intégrés en devenant enfants de Dieu, en acceptant Christ dans notre vie. Et ce qui est frappant dans ce film, c'est de voir au début deux familles, que leur culture, leur identité, leur choix opposent en clair qu'ils sont ennemis. Et de voir suite à la remise en cause de leur identité, pour l'une juive, pour l'autre palestinienne, de voir des relations redevenir possibles et même porteuses de fruits. Car en fait, ils constatent que ce qu'ils croyaient être leur propre fils est en fait un ennemi, un de ceux que leur peuple déteste et qu'eux-mêmes ont détesté. Et de plus, s'ils persistent à cultiver le mépris du peuple voisin, ils se privent de connaître le fils légitime qui est l'autre côté des barbelés. Il y a nécessité pour chacun d'entre nous de déconstruction des acquis du bien et du mal, de ce qui me définit. Ne fallait-il pas une loi pour organiser une telle famille, la communauté, l'Église, jamais vue dans toutes les générations depuis Adam et Ève? Drôle d'organisation politique qu'aucun candidat aux élections dernièrement n'a reprise pourtant. Jésus la donne, cette loi, au travers du sermon de la montagne. Il la résume dans ce commandement nouveau. Vous vous aimerez comme je vous ai aimé. Vous deviendrez serviteurs les uns les autres. Apparemment, la Bible nous dit que c'est un chemin étroit et difficile. Parce que notre orgueil ne va pas dans ce sens-là. Notre volonté ne va pas dans ce sens-là. N'est-ce pas ce qu'opère l'Église en réunissant hommes, femmes, jeunes, personnes âgées, blancs, pauvres, riches, personnes d'origine juive, musulmans, des gens pressés, des gens calmes, des gens perfectionnistes et tout autre? En Jésus-Christ, ce qui nous divise n'est plus. Ce qui nous divisait n'est plus. En Jésus-Christ, parce qu'il a manifesté son amour pour nous. Parce que son amour, parce que l'Esprit nous rappelle les enseignements de Christ, d'aimer à mon tour. Et si j'ai de la réticence à le faire, de la peur, on peut avoir de la peur, il m'y encourage, en me donnant d'y goûter et de m'apercevoir que c'est bon pour moi d'aimer. L'Église est le lieu où j'apprends à déconstruire mes préjugés. Le peu d'estime que je peux avoir pour moi-même, les standards de vie qui m'enferment dans le paraître, etc. Le moteur à ces transformations, c'est la mise en pratique de l'enseignement de Christ qui traverse toute la Bible, de reproduire par imitation les grâces que Dieu opère dans nos vies. En Jésus-Christ, il y a une recréation, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions, Éphésiens 2, verset 10. Cet enseignement, je l'ai dit, traverse toute la Bible. Il y a un appel à reproduire les grâces que Dieu opère dans nos vies. Vous serez saints car je suis saint. C'est le temps de formation. N'oublions pas, nous sommes prédestinés à être ensemble l'image de Jésus-Christ. C'est le temps de la sanctification. Dans le film, ce qui pose problème pour les deux familles à s'engager, à se rendre visite, ce sont leurs communautés respectives. Tiens, tu as de la famille de l'autre côté des barbelés, toi? Parce que leurs communautés respectives, par leur histoire, alimentent ce mur de séparation. Dans notre engagement avec Christ, nous intégrons une nouvelle communauté. J'appartiens désormais à une nouvelle famille qui est la communauté de Prêtres-Saints. Une famille où on peut venir de tout horizon et de toute culture différente. Quelqu'un dira à Jésus, ta mère et tes frères se tiennent dehors et cherchent à te parler. Et Jésus répondit, quiconque fait la volonté de mon Père et qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Matthieu 12, 47. Dans cette famille, à cause du pardon de Christ et de sa patience pour nous, je trouve un espace de sécurité. L'église de Prêtres-Saints est un espace de sécurité où je peux apprendre, où je peux être aimé, un espace de sécurité où je peux oser des relations, où je peux tout doucement sortir de la croyance que je suis insignifiant, où je peux me projeter dans le long terme parce que les relations sont vécues dans cette communauté basée sur des priorités de l'unité d'abord. Parce que je trouve des personnes qui ne m'ont pas rejeté à cause de ma couleur de peau, parce que je suis incapable de me souvenir de deux, trois choses à la fois, parce que arrêter de fumer pour moi n'est pas encore au programme. L'Église est un espace de sécurité où je peux dire des bêtises, me tromper. Comme un enfant, j'apprends à marcher. Chacun à notre rythme, chacun avec ses possibilités affectives. C'est pour ça que l'Église est appelée à être une société alternative, pour témoigner à ceux qui ne connaissent pas Dieu que les relations qui n'étaient pas possibles dans le monde deviennent possibles à cause de Christ, et qui nous donne le modèle d'être serviteurs les uns des autres. Pour ma part, c'est dans l'Église que j'ai appris que je pouvais être aimé simplement, que je pouvais être aimé pour qui j'étais simplement, et que je n'avais rien à produire pour cela. Ouais, c'est par le biais d'un frère qui persistait à garder des relations avec moi. Allez, Philippe, viens. Et j'en suis venu à lui poser la question, mais pourquoi m'aimes-tu? Pour quelle raison? Lui, surpris, m'a répondu, mais c'est comme ça, Philippe, je ne sais pas. Et puis tout doucement, j'ai appris à le croire, que l'on pouvait être aimé, non parce que l'on faisait quelque chose de nécessairement bien, mais pour qui j'étais. Nous parlons de guérison, ouais, mais l'Église est l'endroit sécurisé où l'on peut guérir de nos blessures. C'est ce que l'on entend dans les témoignages. J'ai été touché pour l'attention qu'ils ont eue pour moi. D'autres, j'avais rien, ils m'ont rempli les placards. Ils m'ont accueilli sans rien me demander. Je pense à ces paroles de Jésus. J'étais seul en prison, nu, et vous m'avez vêtu. Nous sommes le peuple de Dieu. Jésus-Christ a inauguré le royaume en donnant le modèle à vivre pour nos relations. Le Saint-Esprit nous est donné pour porter quelle sorte de fruits? Des fruits qui concernent nos relations. Parce que c'est au travers de nos relations que nous témoignerons que l'œuvre de Christ est efficace et que ça change tout d'être chrétien. Que Jésus-Christ ne nous laisse pas inchangés. L'application de ces relations sont pour moi des exercices. Je dois les apprendre à chaque fois, à rectifier le coche. L'important, c'est de ne pas faire des erreurs ou de tomber. L'important est de se relever, de gagner en liberté et de témoigner toujours en progrès l'œuvre que Christ opère dans nos vies. Alors oui, on en veut plus du Saint-Esprit. Seigneur, on en veut plus du Saint-Esprit pour vivre des relations autrement, empreintes de tendresse, de délicatesse, quitte à y perdre ses avantages. À celui qui te demande ta tunique, nous dira Jésus, donne-lui aussi ton manteau. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour vivre ces relations. Parce que pour nous, ce ne sont pas des relations naturelles, à cause de notre égoïsme, de notre violence. J'aimerais lire la prière de Jésus dans Jean, chapitre 17, 11 à 15. Jean, chapitre 17, 11 à 15. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ceux que tu m'as donnés. Je les ai préservés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Mais qui sommes-nous donc, à la fois de ce monde et pas de ce monde? Un peuple nouveau, un enseignement nouveau. L'Ancien Testament disait « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Jésus va plus loin « Aimez-vous les autres comme je vous ai aimé ». Peut-être parce que Jésus savait qu'on était dur avec nous-mêmes. Jésus nous envoie vers toutes les nations. Mais c'est pour que les nations voient que nous cherchons à vivre des liens, des relations innovantes. Et puis je pense à Paul qui dit, mais attendez les gars, si vous aimez simplement ceux qui vous aiment, où va-t-on? Où sera la différence avec les gens du monde? Vous êtes du monde, mais vous avez à témoigner par les règles que vous mettrez en œuvre pour vivre vos relations en Église, que vous allez plus loin que ce qui se vit dans le monde. Il ne s'agit pas de reproduire ce qui se vit dans le monde, mais d'innover et de se laisser conduire par l'Esprit en conformité avec l'enseignement de Christ dans nos vies. Enseignement que l'on trouve concentré dans le sermon de la montagne. Je le répète, nous sommes la maison témoin. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. C'est-à-dire que nous sommes des porteurs de la parole de Christ et de sa transformation dans nos vies. Pour nous, nous avons à réfléchir, à poser des ponts entre nous, à vivre des relations qui témoignent de l'œuvre de Christ dans nos vies et à s'y engager dans la durée. Nous avons à reconnaître pour beaucoup, et je m'y inclus, qu'on ne sait pas bien faire. Du coup, on a à réfléchir sur des espaces de dialogue. Des espaces de dialogue sécurisés, ils seront certainement, sûrement plus longs que ceux du monde. Parce que notre but n'est pas le même. Notre but est de rester ensemble, l'unité et l'imitation de Christ. Jésus laisse derrière lui à l'ascension, Jésus laisse derrière lui à l'ascension un peuple qui, à partir de la Pentecôte, ne sera plus de la même nature que le monde et qui n'est pas encore le peuple de ressuscité. Un déjà et un pas encore. Nous sommes le peuple des temps nouveaux. Nous sommes habités dans nos cœurs. Dans nos cœurs habite le Saint-Esprit. À la fois les yeux au ciel et les pieds sur terre, à suivre le chemin de Christ. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33, 34. Ne nous inquiétons donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Frédéric de Coninck fait ce commentaire sur ce texte. Voilà ce qui compte, c'est d'édifier l'autre, de construire des relations, de réparer ce qui a été détruit. C'est là que gît la création et le reste survient en surcroît. C'est notre rôle à chacun d'entre nous. Je propose 3 petites minutes de silence et je prierai ensuite. C'est vrai, Père, merci pour cette communauté de prêtres saints, Seigneur. Merci, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Chacun est important à tes yeux, Seigneur. On l'a chanté tout à l'heure. Tes œuvres sont bonnes et nous sommes ton œuvre. Chacun ici fait partie de ton œuvre. Ta communauté est ton œuvre. Merci pour cet espace, Seigneur, de cette communauté où on veut apprendre à vivre des relations qui t'honorent et qui te glorifient. Seigneur. Aide-nous, Seigneur, dans ce chemin. On a dit qu'il était étroit, difficile, à cause de notre orgueil, à cause de notre refus de nous soumettre les uns aux autres. Seigneur, on veut grandir dans ce pas. Seigneur, on veut, Seigneur, guérir ensemble, progresser ensemble et témoigner autour de nous, Seigneur, que ton œuvre est efficace. Seigneur, que ton œuvre est bonne. Seigneur, que tu es ce Dieu créateur pour nous, pour chacun d'entre nous encore dans nos vies, Père. Merci pour la communauté, Seigneur. On veut en prendre soin de cette communauté, Père. Communauté, on veut, Seigneur, te prier pour nos anciens, Seigneur. Tu les bénis aussi chacun, Seigneur. Sois loué, honoré, Seigneur. Merci, Père. Amen.
Ben oui, merci vraiment à notre Seigneur pour sa parole. Merci pour ce message qu'il donne à chacun d'entre nous. Et dans notre Église, à Prévesin, la parole de Dieu est proclamée. La vérité est annoncée et par les uns et les autres. Et c'est une bénédiction de pouvoir ainsi prendre cela comme une grâce de Dieu. Il nous donne ce dont on a besoin et à chacun, homme, femme de bonne volonté, nous avons rentré dans ses promesses, les œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Alors moi je vous encourage à continuer, il y a le dimanche, il y a la semaine, on va annoncer pour les annonces de cette semaine, il y a quand même pas mal de choses. Donc nous avons l'occasion encore d'annoncer la parole, d'ouvrir la parole, de prier. Donc déjà pour les femmes, à 14h lundi, donc je crois que c'est chez Rebecca. Hein, ouais. Ensuite, nous avons une fin d'année particulière pour tous, toute la, la jeunesse et les enfants, pas mal de préparation pour une première chose, c'est pour les écoles du dimanche. Donc il y a une réunion pour les moniteurs à 20h30 à l'église, ici, donc demain soir. Ensuite, on enchaîne pour le mercredi 23 mai, ici à 20h30 aussi, à l'église. Donc vous savez qu'il y a ce camp pour les enfants du 13 au 18 août cette année, où on va inviter des enfants. Il y a comment on appelle le groupe de jeux? Comment on appelle ça? Le club d'enfants. Il y a le club d'enfants, et on veut inviter bien sûr ces clubs d'enfants pour cette semaine, et puis bien sûr d'autres enfants aussi. Et là, forcément, on a besoin de bonne volonté aussi. On a besoin de personnes qui prient, d'intercesseurs. Et c'est pour ça que vous pouvez aussi venir, tous, ceux qui ont à cœur vraiment de prier pour cette semaine. On a bien sûr besoin de personnes pour l'enseignement durant cette semaine. Réfléchissez, mettez-vous devant le Seigneur pour voir s'il faut peut-être pas prendre une semaine de vacances pour cela. On a besoin de musiciens pour la louange. On a besoin de personnes pour nous aider au bricolage. Ça, c'est bien sûr Emmanuel et Rebecca qui nous font cette annonce. C'est un peu eux qui ont la charge, mais seuls, bien sûr, ils n'y arriveront pas. Ils ont besoin aussi d'arbitres pour organiser les jeux, pour que ça se passe dans tous ces jeux-là, dans la paix. De personnes pour la préparation des goûters. On a besoin d'une infirmière. On a besoin de personnes pour le nettoyage. Et bien sûr, de moniteurs. Donc, il y a besoin de pas mal de capacités, d'engagement de la part de personnes de l'Église. Et les jeunes aussi, à partir de 15 ans, vous pouvez volontiers vous engager, parce qu'à partir de 15 ans, vous pouvez venir aider. Alors, pour cette soirée, mercredi, venez nombreux, on a besoin de vous. Jeudi, réunion de prière à 20h30, donc ici aussi à l'Église. Et puis, pour cette semaine, bien sûr, samedi, 20h30, le groupe de jeunes, et puis le culte ici, aussi à 10h30, dimanche. Une annonce aussi à noter, pour le samedi 2 juin, il y a le club d'enfants, justement, qui va se dérouler ici, en bas, et il y a des invitations qui sont prêtes pour les enfants qui sont au fond de l'église. Et là aussi, on a besoin de salades et de desserts pour ce club, puisque ça se déroule le matin, et qu'après un petit apéritif ou un petit repas qui est servi après. Donc, vous pouvez vous inscrire sur le tableau au fond de la salle. Voilà, j'ai fini pour les annonces de l'église. Juste, André, tu es où? Voilà, tu voulais faire une annonce? Je te laisse la parole.
On va se lever pour chanter? Non, c'est une blague. J'aimerais vous faire une annonce. Ça fait quelques années que nous avons mis nos enfants dans une école chrétienne, l'école Timothée. L'école se trouve à Genève, au Grand Saconnet. Alors ça demande quelques sacrifices, c'est vrai, quand on décide de mettre nos enfants dans une école comme ça. Mais on veut croire, et je veux croire que Dieu bénit par cette école qui, il n'y en a pas beaucoup d'écoles chrétiennes. Tous les enseignants sont chrétiens. Et puis cette école chrétienne donc va ouvrir ses portes pour tous ceux qui seraient intéressés, ou simplement si vous voulez voir comme ça se passe. Donc vous pouvez, voilà, vous voyez en haut c'est Zoé, donc vous voyez depuis le nombre d'années qu'on les a mis, hein. Voilà, elle est encore toute petite, hein. Donc le vendredi 1er juin, et ça se passe de 17h à 20h, vous êtes libre de venir, vous pouvez nous contacter si vous voulez plus d'informations, ou encore mieux, vous pouvez aller voir nos enfants. Je laisse quelques tracts au fond de la salle.
Sinon, concernant des nouvelles et des sujets de prière pour les aînés, on a appris, donc au début de semaine, il y a Jacques Huppers qui a été hospitalisé, donc à Saint-Julien. Donc depuis, il est sorti, je crois, vendredi. Donc il va mieux, il est content bien sûr d'être rentré chez lui. Mais prions pour lui, prions parce que je crois qu'il a mal, c'est des douleurs au ventre. Prions pour lui et aussi pour Guylaine. Et bien sûr, on pense aussi à Roby, les petites douleurs, les douleurs de chacun des aînés qui sont là. On prie aussi pour que ces guérisons, on a eu un témoignage de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur, dans nos tissus, qui peut s'opérer aussi. C'est un beau témoignage aussi pour nous. Et je voudrais terminer par la lecture d'un passage. C'est Éphésiens 3, verset 14. « Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne durant cette semaine. Alors oui, peut-être... Ok, non, mais ça, j'ai pas su. J'ai pas appris. Alors oui, Loulou a été opéré cette semaine. Qui c'est qui peut donner des nouvelles? Ben merci. Ben prions aussi pour lui alors. Soyez bénis pour cette semaine.